L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et en rediffusion à 18h. Le dialogue social, on entend ces deux mots de temps en temps au détour d'un discours politique ou patronal ou syndical, car c'est de cela qu'il s'agit, un dialogue entre les employeurs et les employés, un dialogue que le gouvernement souhaite direct pour régler directement des problèmes très concrets de la vie professionnelle. Quand le dialogue social fonctionne mal, c'est alors qu'on fait appel aux décideurs politiques pour arbitrer. Le dialogue social en France, c'est vieux comme l'industrialisation. Disons qu'au XIXe siècle, on parlait plutôt de conflit social, avec des moments de paternalisme de grands industriels qui organisaient toute la vie de leurs ouvriers, logements, écoles, clubs de sport, soins médicaux. Puis, la société et ses lois ont évolué, l'histoire a façonné d'autres rapports sociaux plus policés, quoique, des Grenelles et d'autres grands sommets au cours desquels syndicats et patronats se retrouvaient sur de grandes questions, retraite, chômage, temps de travail. Aujourd'hui, dans cette émission, on s'intéresse au dialogue social, mais peut-être moins spectaculaire, très important cependant. Nous recevons des membres de l'Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du Finistère, ODDS29. Alors pour plus de facilité, je dirais Observatoire du dialogue social. Sa présidente, Laurence Garry-Kerasquet, bonjour.
Bonjour.
Et Jérôme Melchior, président départemental CFE-CGC du Finistère, également membre de cet observatoire. Vous avez une fonction dans l'observatoire?
Bonjour.
Vous êtes vice-président? Non,
je suis membre de membre.
Eh bien, bonjour.
Bonjour.
Donc, en fait, Laurence Garrigue-Kerasquet, pour resituer, vous représentez la partie patronat, c'est ça?
C'est ça, je suis mandataire pour le MEDEF 29, l'Union des entreprises du Finistère.
Et vous, plutôt la partie syndicat?
Je représente aujourd'hui la CFE-CGC, mais c'est plutôt l'ensemble du groupe des représentants des salariés, donc qui sont au nombre de 5, que j'expliquerai un peu plus tard.
Alors, on va commencer par juste expliquer ce qu'est cet observatoire, d'où ça vient. Laurence Garrigue, allez-y.
Eh bien, en fait, l'observatoire est né en avril 2018 à l'issue de la mise en place par les ordonnances Macron de la création du CSE. Donc, le CSE, c'est le Conseil social et économique qui est en fait à fusionner les différentes missions qui étaient avant dévolues aux délégués du personnel, au comité d'entreprise, au comité d'hygiène et sécurité et autres. Donc tout ça en fait a fusionné dans le CSE. Et donc pour en fait pouvoir, ça a un peu bouleversé le paysage de la représentation du personnel. Donc il y a eu un nouvel élan sur le dialogue social avec un peu plus de représentativité des syndicats. Et en fait, donc ce CSE était obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés. Mais il se trouve qu'il y a quand même tous les TPE-PME qui constituent le tissu local du Finistère qui n'avaient pas obligation de mettre en place le CSE. Et donc, le dialogue social se retrouvant au cœur encore plus des problématiques de l'entreprise et des salariés, le gouvernement a souhaité mettre en place cet observatoire pour pouvoir les accompagner.
Donc, il y en a un par département, en fait, c'est ça?
Tout à fait, il y en a un par département. Donc, en avril 2018, il s'est créé celui du Finistère. Donc en fait, le temps qu'on arrive à se connaître, à connaître l'objectif de cet observatoire, on a donc travaillé, puis arrivé le confinement en 2020. Et là, en fait, on a quand même réussi à tenir pas mal de réunions. Et donc la première des actions que moi j'ai mis en place, parce que en fait les deux premières années, c'était donc un représentant des salariés. Monsieur Gestin de la CGT, qui était président. Et puis, au bout de 2 ans, ça a switché.
Donc, ça sera toujours comme ça, en fait.
Oui, c'est-à-dire, ouais. C'est un mandat sur 4 ans. C'est président-vice-président s'alterné.
Ah oui, d'accord. Très bien. Et donc, alors, comment est-ce que... Alors, sur la définition des actions, enfin, des rôles, plutôt, avant même de parler des actions.
Tout à fait.
Vous dites, on accompagne les très petites entreprises, enfin, les entreprises de moins de 11 salariés. Mais, alors, peut-être, Jérôme Melchior, vous allez nous dire...
Alors, effectivement, donc, la loi nous a attribué 3 missions principales. La première, puisqu'il s'agit d'un observatoire, on établit un bilan annuel du dialogue social dans le Finistère. Et donc, avec la direction départementale de l'emploi et du travail et de la solidarité, la ex-directe, On fait effectivement une analyse un peu de la négociation collective dans le Finistère. On peut voir un peu justement quels sont les thèmes qui sont les plus étudiés, et d'autre part, est-ce que les petites entreprises également font beaucoup d'accords.
Voilà. Donc, c'est les accords en fait qui vous servent de documents de données en fait.
Absolument.
D'accord, c'est pas les réunions, vous recensez quand même
tout,
pas
non,
toutes les réunions.
Non, d'accord. Bien sûr. Ensuite, on peut être saisi par toute organisation syndicale ou professionnelle pour toute difficulté rencontrée. Donc on est une ressource à disposition donc, de ces entités pour pouvoir éventuellement leur apporter notre expertise à nous ou avec l'appui de la DETS, la Direction départementale de l'emploi.
Ça serait quoi les difficultés par exemple ?
Les difficultés justement pour organiser, il y a souvent dans des entreprises, nous avons souvent malheureusement des problèmes d'entente entre les deux parties et le dialogue social à ce moment-là est complètement à zéro. Et donc en général, ils peuvent demander à l'Observatoire de faire un diagnostic de la situation et d'aider un petit peu par des formations communes au dialogue social pour que les deux parties arrivent à nouveau à se parler et à se mettre d'accord sur les sujets essentiels. Quoi.
Voilà. Et troisième mission.
Et la troisième mission, donc il apporte son concours et son expertise. C'est là où je disais qu'on était, une ressource à disposition et on l'expliquera un peu plus tout à l'heure, un peu quelles sont les différentes possibilités qui sont offertes par nous. Quoi. Alors, comme le disait Laurence tout à l'heure, donc, c'est un organisme paritaire, un établissement paritaire. Donc ici, dans le Finistère, nous sommes 5 représentants des salariés et 5 représentants des organisations patronales. Et en fait, notre observatoire est constitué donc, de ces 10 personnes, plus la représentante de la direction de l'observatoire et du travail, de la direction de l'emploi pardon, et du travail.
De l'État, quoi,
de
en
l'État,
fait.
Absolument, oui. Voilà. Mmh. Et donc tout ça, ça forme un collège qui se réunit assez régulièrement. La présidence, effectivement, on vient de le dire, Laurence, est avec certains changements. Enfin, tous les deux ans, on change, etc. Et le secrétariat est assuré par la direction du travail. Voilà.
Mmh. Et comment ces personnes sont désignées au départ ? Comment est-ce que vous les 10 personnes, Laurence Garrigue ?
En fait, oui, je voulais revenir sur la DES parce que c'est vrai que c'est issu du ministère du Travail. Donc, en fait, la DES, c'est l'ancienne directe, voilà, que l'on connaît mieux, en fait, sous le volet inspection du travail, mais dans lequel... il y a un appui pour les entreprises, en fait, des services dans lesquels ils proposent un appui pour les entreprises. Et donc, c'est eux qui, en fait, qui l'ont mis en place, qui nous accompagnent, qui mettent à disposition, les moyens, pas financiers, mais techniques dont on aurait besoin.
Des experts, quoi, des animateurs, des dialogues sociaux.
Oui, c'est ça, même déjà un local,
oui,
pour qu'on puisse se réunir,
ouais.
Puisqu'en fait, donc on est...
En terrain neutre, en fait, c'est ça. Quand
voilà,
y a un terrain,
tout
mieux,
à fait, ouais. Tout à fait en terrain neutre, puisqu'en fait, on a donc, comme le disait Jérôme, on a 11 représentants, on a 5 membres syndicats et 6 organisations professionnelles.
Mais ces représentants, ils s'étaient portés volontaires ? Enfin, il y a eu une élection ? Comment ça s'est fait, ça ?
Alors, oui, pour répondre à cette question, effectivement, les représentants donc, des syndicats, comme les représentants des patrons, sont désignés selon la représentativité de leur part dans le département, hein, suite aux dernières élections. Donc, en 2017,
syndical.
Donc, il y a eu un rapport complet des élections en fin 2017. Et donc, c'est pour ça qu'en 2018, lors de l'instauration de l'Observatoire, le préfet, en l'occurrence, ou le directeur du travail de l'époque, avait effectivement repéré les organisations qui avaient les 5 premières, en quelque sorte. Quoi.
Voilà. Donc, vous pouvez nous les rappeler, peut-être
Bien sûr, volontiers. Donc, on retrouve la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT et Force ouvrière. Et côté patronal, on retrouve la CPME, on retrouve la FDSEA, on retrouve l'UDES, on retrouve l'UDEP, l'Union des petites entreprises de proximité, et puis l'Union des entreprises, qu'on appelle le MEDEF. Quoi.
Mmh, voilà. D'accord. Alors, quels sont je sais que c'est un observateur qui n'est pas très vieux, mais est-ce que déjà vous pouvez nous donner vos impressions ? Alors, peut-être, côté patronat, Laurence Garrigue, quels sont les avantages, les inconvénients ? Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant à cet observatoire ?
Ce qui est intéressant, je pense que c'est un, comme on disait tout à l'heure, c'est un lieu neutre où on va pouvoir en fait discuter, échanger sur des questions liées au travail, sans qu'il y ait de, parce qu'il y a des patrons et donc des représentants des salariés, et sans qu'il y ait de prise, on va dire, partisane.
Ouais, parce que vous n'êtes pas dans les mêmes entreprises, en fait, même pas dans les mêmes branches, parfois, c'est ça ?
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, donc, moi, par exemple, qui suis mandataire pour le MEDEF, déjà, l'Union des entreprises représente plusieurs entreprises, dans lesquelles il peut y avoir le BTP,
la
métallurgie et autres. Et puis, on a aussi le représentant de la restauration, c'est l'UMI. On a la FDSEA, c'est les agriculteurs. la CPME.
C'est les petites entreprises.
Hein, donc, voilà. Donc en fait, on a différentes branches et différents secteurs d'activité. C'est ça qui est intéressant. Et différentes tailles d'entreprises et donc différents types, entre guillemets, de salariés. Quoi.
Ouais.
Voilà, puisqu'en fait, ils ne sont pas gérés de la même façon dans les grands groupes et dans les petites entreprises. Parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'Observatoire, nous, on a voulu l'axer sur les très petites et moyennes entreprises.
Et il y en a beaucoup dans le Finistère. Je crois que c'est 97%, c'est ça, les entreprises qui ont de moins de 11 salariés. Donc vraiment,
ça fait partie du particularisme local. Voilà, puisqu'en fait, c'est... et qui regroupe, 43% des salariés. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a un tissu économique très dynamique. Avec donc une variété d'entreprises.
Et même des associations.
Et des associations.
Qui sont employeurs aussi, bien sûr.
Oui, tout à fait. On a l'économie sociale et solidaire, on y reviendra aussi, qui se développe beaucoup. Et donc, on a des entreprises à taille humaine où le chef d'entreprise est directement, en fait, on va dire, en face de ses salariés. Il doit gérer beaucoup de choses. Et donc, à ce titre, l'Observatoire est un lieu un peu plus neutre où pourrait justement s'échanger des problématiques.
Et parce que vous, en tant que patronne d'une structure peut-être un peu plus grande, qu'est-ce que, justement, vous voyez le problème quand on est juste simplement patron de mener un dialogue social, c'est ça?
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, les groupes de plus de 11 ou plus de 50, ils ont donc des délégués du personnel, ressources humaines et autres. Et des fois, les chefs d'entreprise n'ont pratiquement pas contact avec leurs salariés, alors que les très petites et moyennes entreprises, elles sont un peu... soumises à la contrainte du temps, déjà. Elles ont peut-être un peu la fierté à ne pas aller chercher l'information ou autre, à demander, pas de l'aide, mais disons, voilà. Elles peuvent avoir les outils juridiques et techniques, mais après, c'est le rapport humain qui peut être compliqué, puisqu'on est directement après confronté à ses salariés. Des fois, on est formé pour son métier, mais on n'est pas toujours à même de pouvoir gérer cela. Quoi.
Oui, c'est ça, il faut être psychologue, ce qu'on n'est pas toujours. Et alors, Jérôme Melchior, du point de vue des syndicats et même des salariés, quel est l'intérêt de cet observatoire?
Écoutez, le dialogue social, c'est une activité humaine avant tout. C'est une relation humaine entre des personnes qui ont parfois des objectifs, je dirais, qui ne vont pas dans le même sens, mais ils ont plusieurs points communs. Il faut qu'il y ait une confiance réciproque entre les partenaires, il faut qu'il y ait un partage des connaissances, il faut qu'ils acceptent les attentes paradoxales parfois, et il faut qu'ils aient surtout une volonté de rechercher un compromis. Et les salariés et les représentants des salariés sont malheureusement, je dirais, aujourd'hui un peu démunis, parce qu'ils n'ont pas la formation ni le temps pour pouvoir être au niveau en face de leurs interlocuteurs patronaux. Et ça, c'est un des soucis, c'est que la fonction RH dans les entreprises aujourd'hui doit s'efforcer...
RH, ressources humaines.
Doit effectivement s'efforcer de monter en compétence un peu les élus, parce que ce n'est pas les 30 heures par mois qu'ils ont en général pour pouvoir effectivement faire bien leur métier, parce qu'ils ont aussi un autre métier par ailleurs, bien entendu.
Donc l'Observatoire peut aider grâce Absolument. À ses expertises. Et puis, on dit que le syndicalisme en France ne va pas très fort, je crois que c'est assez vrai. Est-ce que, du coup, ça permet peut-être aussi de faire connaître le syndicalisme à des univers d'entreprises où il n'y en a pas, peut-être.
On voit le syndicalisme un peu différemment. Je crois qu'il est fini le temps où on voyait des choses au bord de la route, etc. Je crois que c'est un peu fini maintenant. Bon, voilà. Le syndicat, aujourd'hui, il participe aussi au développement de l'entreprise, à la performance. Il n'est pas uniquement sur les revendications salariales, et ça a été au début. Mais aujourd'hui, le syndicalisme doit aussi se diriger vers des valeurs, vers l'environnement, vers un tas de nouvelles choses qui, effectivement, aujourd'hui, intéressent les deux parties. On ne peut plus, aujourd'hui, avoir un CSE, discuter avec le patron ou avec les patrons, sans aborder l'avenir. Et l'avenir est aussi fait de l'environnement et du respect du climat. Voilà.
Est-ce que dans ces petites entreprises, les salariés gèrent plus, sont plus près de la gestion, Laurence Garrigue?
Oui, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un enjeu aussi pour les syndicats à prendre cette dimension, parce que les petites et toutes petites entreprises, elles n'ont pas beaucoup de liens avec voire pratiquement pas avec les syndicats.
Ah oui.
Et donc, ils ont peut-être un questionnement à avoir là-dessus, et justement, comme on disait qu'il y a 97% des entreprises qui représentent un tissu de toutes petites ou moyennes entreprises, il y a réellement, je pense, peut-être une mue à se produire auprès des syndicats, parce qu'il y a réellement un enjeu et les salariés aussi peuvent se sentir perdus dans leurs revendications éventuelles, quoi, parce qu'on a vu qu'en fait, il y a eu une étude... Lorsqu'il y a eu les rencontres, parce qu'en fait, entre observatoires, une à deux fois par an, on se rencontre.
Ah oui, avec d'autres observatoires de toute la France ?
Ben non, là, on reste sur...
la Bretagne.
Voilà, sur la Bretagne. Donc, c'est déjà pas mal. Et donc, on met en parallèle les différentes actions que chacun initie. Et à l'issue, on voit aussi ce qui a été fait au sein de l'Observatoire, les différentes analyses des accords qui ont été traités. Et donc, en fait...
ça concerne quel secteur, ouais, ces accords?
Voilà, c'est ça. Ben, en fait, on avait le télétravail, la rémunération... La négociation, les primes Covid et autres, ça c'était en fait depuis le début.
Ça, c'est les sujets des derniers accords.
Voilà, c'est ça. Ça date de juin 2021 et donc c'est retour sur 2020 et donc début de la crise sanitaire. Et c'est vrai que le télétravail était à 31%, enfin, était en tête.
Le sujet, quoi.
Le sujet. Bon, bien sûr, il y avait différents points qui n'existent pas, la prime Covid ou autre, en temps normal. Et donc, à l'issue de la crise, en fait...
Est-ce que la crise est terminée ? Pas de question.
Oui, bon, on va dire
En tout cas, la fin 2021, on va dire.
Voilà. Eh bien, l'organisation et conditions de travail, là, étaient vraiment en tête et le télétravail suivait juste derrière.
Ah ouais, ça évolue un petit peu, quoi.
Voilà.
Jérôme Melchior, vous voulez...
Oui, je voudrais juste compléter ce que dit Laurence parfaitement. Donc, effectivement, avec la spécificité due à la crise sanitaire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le dialogue social a pris, durant cette période, une forme différente.
Eh oui, c'est quoi ?
On parle du e-dialogue social, du dialogue social à distance. Parce qu'évidemment, avec le confinement et puis toutes les mesures de télétravail, il a fallu que les OE, les organisations syndicales, restent aussi à leur domicile pour travailler. Et donc, vous imaginez un peu les relations entre du dialogue social qui se fait à distance, ils l'ont découvert.
Bah, au moins, on peut pas se taper dessus.
On peut pas se taper dessus, absolument. Hein. Mais c'est vrai que c'est une forme nouvelle de dialogue social qui mérite peut-être d'être explorée pour l'avenir. Probablement qu'on a découvert, grâce à ça, qu'il y a des négociations ou des concertations ou des discussions. Vous savez, le dialogue social, il a 7 ou 8 critères. Il y a peut-être certains sujets qui peuvent être faits sous forme, effectivement, à distance et d'autres qui peuvent, effectivement, qui ne peuvent pas être autrement qu'en face à face.
Ah voilà. Oui, par exemple, qu'est-ce qui ne peut pas être
Dès qu'on parle de la santé financière de l'entreprise, dès qu'on parle du développement économique, on ne peut pas... Par contre, parler de l'égalité égalité professionnelle, on peut commencer à aborder les sujets à distance. En partageant le diagnostic. Ce qui est important, toujours avant un diagnostic social, c'est de partager un diagnostic commun.
Oui, chacun.
Est-ce qu'on est bien d'accord sur la vision, la photo qui existe ? Après, le film qui va nous mener jusqu'à la solution, par contre, là, effectivement, on va le construire en commun. Mais au moins que la photo, à un instant T, qu'on la partage.
Pourquoi la santé financière de l'entreprise, ça ne peut pas être fait à distance ? Parce que c'est trop technique ? C'est quoi le problème ?
C'est un peu technique, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux. Et puis, je vous dis tout à l'heure, les gens ne sont pas forcément formés non plus sur les aspects économiques et de gestion. Donc, il faut aussi, à un moment donné, qu'il y ait une sorte de pédagogie en présentiel pour pouvoir un peu expliquer par des experts qui peuvent venir. Le CSE peut mandater un expert aussi pour pouvoir analyser à sa place les résultats financiers pour pouvoir, à ce moment-là, prendre des positions derrière. Voilà.
Laurence Garrigue, il y a d'autres particularismes finistériens que vous voudriez signaler sur le dialogue social ?
En fait, il y a le particularisme en lui-même du Finistère, c'est-à-dire son territoire, qui fait que il y a une attractivité du territoire, mais qui peut se poser en questionnement sur, par exemple, on a une problématique qui est très liée au logement. C'est-à-dire que sur les secteurs de territoire qui sont touristiques
et
côtiers. On a la même problématique qu'en montagne, c'est-à-dire qu'on a des gens, des saisonniers ou même des locaux qui travaillent à l'année ou de façon périodique, mais qui n'ont pas les moyens de se loger. Et donc, à ce titre, Bon, on verra tout à l'heure, mais on a différents partenaires qui peuvent apporter une réponse et qu'on souhaite mettre en valeur. Et donc, on a ce particularisme-là, en plus du fait qu'on a un tissu économique très, très dynamique sur les toutes petites et moyennes entreprises. On a une économie sociale et solidaire très, très développée. Ouais. Et se retrouve donc sur un territoire qui est, on va pas dire isolé, mais un territoire un peu éloigné des transports, de la mobilité. Donc on va pas attaquer des sujets assez vastes qui pourraient relever.
Ah, on pourrait, on fera d'autres émissions.
Hein, ah oui, de l'aménagement du territoire, mais je pense qu'il y a une grande question quand même liée à la mobilité qui est importante dans. Dans ce qui est l'enjeu lié au travail.
Oui, dans les accords, juste je voulais savoir, dans les accords qui ont été noués en 2021, là, c'était quel secteur, est-ce que c'était tout secteur, hôtellerie, oui. Bâtiment,
oui, absolument. Les secteurs les plus impactés, effectivement, c'est ceux qui ont fait le plus d'accords pour éviter justement d'avoir une catastrophe et qu'ils étaient obligés de s'entendre. Par contre, il y a unanimité au niveau des secteurs d'activité, il n'y a pas de secteur en particulier qui est devant les autres.
Oui, voilà. Mais il y en a qui sont plus forts dans le Finistère, je suppose, comme l'agriculture, comme vous disiez.
La métallurgie, l'agriculture.
Ah oui, la métallurgie aussi, c'est important dans le Finistère. Ouais. D'accord.
Oui, parce qu'en fait, avant la crise et tout ce qui était un peu lié à l'organisation, c'était plutôt l'épargne salariale, enfin des choses un peu classiques.
C'était ça les sujets.
Ouais. Oui, c'était ça les sujets, quoi. C'est-à-dire, il y avait bien sûr la rémunération.
L'épargne salariale.
C'était comment répartir les bénéfices, en gros, c'était ça. Enfin, les bénéfices.
La thème de la rémunération négociée, 32% des
accords. L'épargne salariale, l'intéressement.
Voilà, c'est ça. Ça a duré, et après aménagement du temps de travail et protection sociale.
Et là, c'est vrai qu'avec la crise, d'autres sujets vont surgir. Comme le recrutement, et c'est là qu'on en arrive quand même à l'actualité, entre guillemets, c'est-à-dire que vous organisez le 13 décembre, donc bientôt, un colloque sur l'attractivité et le dialogue social, le lien entre les deux sujets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le lien entre l'attractivité d'une entreprise et le dialogue social ? On l'a un petit peu compris déjà, mais...
Oui, c'est-à-dire que justement, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être un peu plus de dialogue social dans les grandes entreprises et que... En fait, les toutes petites et moyennes entreprises n'ayant pas réellement accès ou les moyens de mettre en place ce dialogue social, pour participer à leur attractivité, on s'était dit qu'il fallait mettre autour de la table les différents partenaires qui pouvaient les accompagner sur ce sujet. Et donc...
Par exemple, oui.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je suis pas sûre que ça ait déjà été fait vraiment ailleurs. On a bien sûr la dette là, qui va donc présenter les outils les services qu'ils peuvent déjà mettre auprès des entreprises avec des dispositifs RH qui existent, des dispositifs transco, c'est-à-dire que le transfert de salariés.
Ah oui.
Entre entreprises, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont en demande et d'autres qui sont en souffrance, plutôt qui en ont trop et d'autres pas assez, du coup ils peuvent par le biais de formations complémentaires se prêter ou s'échanger des salariés.
Ah oui, pour un temps donné, pas tout le temps.
Voilà, ouais, c'est ça.
D'accord.
Pour faire court. Ensuite, on a invité l'APEC qui a aussi des outils.
Alors d'audit. L'association pour l'emploi des cadres, c'est une association
qui met aussi un outil d'audit, par exemple, auprès des entreprises. On a, donc bien sûr, Pôle emploi, on a la santé au travail aussi, donc la médecine du travail, parce que les problématiques se sont peut-être déplacées, c'est-à-dire on était sur l'ergonomie et sur la façon dont on pouvait avoir un poste de travail.
La prévention des troubles musculo-squelettiques,
voilà.
C'est ça ?
Voilà, et là on est peut-être passé avec le télétravail ou autre, et à la crise sanitaire, à d'autres types de problématiques de santé.
Il y a toujours le mal au dos, je pense qu'il est toujours là, mais il doit y
avoir
d'autres choses.
Oui, mais on a peut-être des problèmes... Ouais. Pas psychologique, mais enfin, de souffrance au travail, mais cette souffrance, elle est peut-être autre. Et on a...
C'est un colloque qui doit durer toute une journée, c'est ça ?
Alors, oui, mais alors, on a d'autres... C'est-à-dire que par rapport à la problématique dont je parlais tout à l'heure du logement, on a donc aussi invité Action Logement, parce qu'en fait, les grandes entreprises, enfin, les entreprises de plus de... 11, cotisent en fait à Action Logement et donc leurs salariés peuvent bénéficier de prêts
taux zéro,
ou autre, voilà. Mais en fait, Action Logement est aussi orientée, et c'est là où nous on veut faire passer ce message, auprès des très petites et moyennes entreprises. Et donc, a des dispositifs pour pouvoir les accompagner.
Ah oui.
Et ça, en fait, les chefs d'entreprise ne le savent pas, parce que, comme on le disait tout à l'heure, ben, soit ils n'ont pas le temps d'aller chercher l'information, soit parce qu'il y a une communication qui n'est pas évidente. Et donc, on a 26 entreprises
qui vont participer au
colloque. Vont participer dans différents secteurs, différentes branches d'activité, différentes tailles. On a bien sûr ciblé TPE, PME, mais on a des grands groupes, mais enfin des entreprises de taille aussi très importante avec des domaines très différents.
Et Jérôme Melchior, c'est ce que vous vouliez dire sur le colloque. Vous avez une minute.
Non, je vous en prie. Non, mais je disais qu'effectivement, vous avez parlé tout à l'heure du paradoxe. Effectivement, il y a 6,8% de chômage en Finistère, particulièrement. Et tous les jours, il y a exactement 15 000 offres d'emploi qui sont non pourvues. Tous les jours. Donc, évidemment, les mesures qui sont à disposition des entreprises, doivent leur permettre effectivement de faire d'une part un diagnostic, c'est gratuit en général par les organismes, et puis d'autre part peut-être d'agir sur leur fonctionnement. Certaines peuvent revoir leur organisation, certaines peuvent voir effectivement utiliser les réseaux sociaux pour être plus visibles, etc. D'autres peuvent également montrer que leur caractère de RSE, par exemple la responsabilité sociétale des entreprises, est un des fondements de chez eux et peuvent attirer des clients grâce à ça.
Ouais, parce que comme ça propose un métier qui a du sens.
Exactement, quoi, voilà. Et c'est pas uniquement le salaire arrive très rarement en première position, c'est surtout aujourd'hui, il y a un manque de candidats déjà, mais quand ils ont des candidats, ben, c'est pas forcément le salaire qui met en premier. Évidemment, c'est le Covid a aussi beaucoup modifié un peu la perception des gens, l'organisation du travail, le temps de travail, les
week-ends,
etc.
À quoi ça sert mon travail,
à quoi ça sert, et etc. Et donc d'accord. L'environnement également. Quoi.
Donc autant de sujets qui seront traversés dans ce colloque qui a lieu le 13 décembre à Quimper, qui est organisé par l'ODDS, donc je vais redire, c'est l'Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du Finistère. Alors Laurence Garrigue-Carrasquette et Jérôme Melchior, je vous remercie.
Merci à vous,
merci
bonne journée.
Merci de nous avoir accueillis.
Merci.